franceinter.fr.
Et c'est l'intoxication au mercure qui est à la une de la science aujourd'hui.
Il s'accumule dans la peau quand on le touche, ou dans le sang quand on l'inhale. Et il vous fait perdre vos dents, ou vos cheveux. Ça finit par vous tuer.
Voilà, ce sont les chercheurs d'or californiens que nous entendions il y a un instant, et ce ne sont pas les seuls à être exposés au mercure quotidiennement. Il est présent, ce mercure, dans notre vie, tous les jours, et peut être dangereux à très faible dose. Une équipe de Français et d'Américains vient de mettre au point une nouvelle technique d'analyse qui permet justement d'identifier les formes chimiques du mercure dans les cheveux humains, et par là même la date et la source de l'exposition. C'est une grande première à laquelle vous participez. Bonjour Jean-Paul Bourdineau.
Bonjour, Mathieu.
Vous êtes professeur de toxicologie environnementale à l'Université de Bordeaux. Quelles sont les sources quotidiennes de mercure auxquelles nous pouvons tous être confrontés alors ?
Les trois formes essentielles auxquelles nous sommes exposés proviennent de la consommation de poissons, d'une part, et c'est la forme organique méthylée du mercure qui est la plus toxique et qui est contenue. D'autre part, il y a les amalgames dentaires qui libèrent du mercure sous forme vapeur, du mercure élémentaire, qui est ensuite oxydé par des enzymes dans la bouche. Et enfin, il y a le mercure issu de certains vaccins. Certains vaccins contiennent encore un antibiotique conservateur, le thimerosal, qui est un composé organomercuriel qui lui-même est dangereux. Donc ce sont les trois sources essentielles d'exposition des humains au mercure.
Et quelles sont les doses auxquelles le mercure devient dangereux et les symptômes d'une intoxication alors ?
Alors les doses de méthylmercure qui sont actuellement acceptées ou plutôt rendues réglementaires en termes de limites supérieures, c'est de l'ordre de 0,7 microgrammes par kilo et par semaine. Et ça, c'est la norme de l'EPA, l'Environmental Protection Agency, l'équivalent du ministère de l'Environnement français aux États-Unis. Alors, il faut savoir que la norme, très curieusement, la norme européenne est à environ 2,5 fois supérieure.
Et quand on mange du poisson qui peut être dangereux, on est capable d'ingurgiter quelle quantité de mercure ?
Tout dépend du poisson que nous ingérons. C'est-à-dire que le mercure est d'autant plus présent dans la chair des poissons que ces poissons sont au sommet de la chaîne alimentaire. Bon, par exemple, dans le thon, il y a des concentrations qui sont de l'ordre de 0,5 jusqu'à 1 microgramme par kilo de thon. Donc, ce qui signifie que lorsqu'on mange un steak de thon de 200 grammes, on peut ingérer de l'ordre de 100 à 200 microgrammes. Et donc, on dépasse outrageusement la limite hebdomadaire. Donc, lorsqu'on mange un steak de thon de 200 grammes, il vaut mieux attendre un bon mois avant d'essayer de
recommencer, oui.
Exactement.
Jean-Paul Bourdineau, vous publiez donc la démonstration d'une nouvelle méthode de traçage des contaminations grâce à la kératine des cheveux. Expliquez-nous votre démarche exactement.
Oui, alors dans les cheveux, notre méthode consiste en fait à la mise au point par les spécialistes du synchrotron de Grenoble, y compris Alain Manceau, d'une ligne de rayons X très puissante dont les caractéristiques spectrales sont assez exceptionnelles et qui permettent en fait, lorsque on place au bout de cette ligne de rayons X des cheveux humains, les rayons X vont interagir avec vont entrer en collision avec les atomes de mercure contenus dans les cheveux et vont nous permettre, après coup, après reconstruction mathématique, de préciser les atomes avec lesquels ce mercure est lié. Et donc, non seulement on peut doser le mercure, mais on va bien au-delà de ce qui se faisait jusqu'à présent, c'est-à-dire que on précise en fait la structure moléculaire de ce mercure dans les cheveux. Et c'est le côté génial de l'histoire, c'est qu'on peut faire la distinction entre le mercure issu de la consommation de poissons, celui issu des amalgames, celui issu des vaccins, et également même celui issu du mercure présent dans l'atmosphère et qui peut se déposer tout bêtement sur les cheveux humains. Allez, simple contact.
Ouais, une dernière question rapidement,
oui,
Axel.
On manque vraiment de moyens de diagnostiquer et de préciser les causes d'une intoxication aujourd'hui ?
Exactement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce que l'on pouvait faire, c'était simplement mesurer la concentration dans les cheveux. Et or, précisément, les cheveux sont considérés comme le révélateur du mercure issu du poisson. Alors que le mercure issu des amalgames ou des vaccins est considéré comme pouvant être exclusivement dosé dans les urines. Or, nous montrons en fait que ce mercure-là, issu des amalgames et du vaccin, on peut le retrouver dans les cheveux sous une forme structurale différente. Et donc, cela veut dire que, à terme, lorsque cette méthode sera améliorée, miniaturisée, à terme, dans un horizon de 10 à 20 ans, nous espérons tous que nous pourrons rendre disponible au diagnostic médical, oui, cette méthodologie.
À l'heure où la phobie autour du mercure est grande, c'est vrai qu'on a besoin en tout cas de méthodes plus précises. Merci beaucoup Jean-Paul Bourdineau pour vos explications autour donc de cette nouvelle technique d'analyse autour du mercure. Merci à vous et Axel, bon week-end.
Bon week-end
à lundi. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, nous sommes tous les descendants d'une poignée d'explorateurs africains. Une étude sur des centaines de génomes montre qu'un seul exode d'Afrique a donné naissance à quasiment tous les génomes des humains du reste du monde. Ces humains, accompagnés de quelques néandertaliens, ont quitté l'Afrique il y a 50 000 à 72 000 ans. Étude faite par des généticiens d'Harvard qui suggère également qu'aucun gène ne peut expliquer le progrès culturel et cognitif dans le développement de sapiens il y a environ 50 000 ans. Cette étude ajoute au passage près de 6 millions de paires de bases à la séquence d'ADN du génome humain publiée en 2001. Le premier feu en Europe aurait été allumé par l'homme il y a 800 000 ans. Ce sont des hommes vivant dans le sud de l'Espagne qui auraient été les pionniers du feu de camp en Europe. Selon les chercheurs espagnols, allemands et canadiens, l'identité de cet homme, de ce pionnier du feu, reste encore un mystère. Mais le paléontologue Michael Walker suggère qu'autour d'un million d'années, nos ancêtres ont régulièrement provoqué de petits incendies, mal maîtrisés certes, mais avec quand même de courtes flammes. Et puis 548,8 km/h, c'est le nouveau record de vitesse pour un bolide électrique. Le 19 septembre dernier, la voiture électrique du constructeur français Venturi, propulsée par deux puissants moteurs électriques totalisant une puissance de 3000 chevaux et alimentée par 2 mégawatts de batterie lithium-ionat, a battu son propre record de vitesse sur un lac salé des États-Unis. Ça ne vous a pas échappé, Michel Chevalet ?
Non, on l'attendait. Hein. Ouais. On l'attendait. Hein.
Record qui n'est pas encore officiellement validé par la Fédération internationale d'automobile, mais c'est pas mal quand même, 548,8 km/h.